Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Après des années de questionnements, de débats, voilà que Ottawa finalement dit non aux Chinois Huawei dans le déploiement du réseau 5G au pays. On attend toujours ce point de presse de confirmation, mais c'est la décision qu'aurait finalement prise le gouvernement du Canada. Il faut dire que c'est un dossier assez sensible parce qu'on sait que c'est l'installation de la nouvelle technologie. Ça implique énormément d'installations à la grandeur du pays. Et il y a des inquiétudes concernant la collecte de renseignements qui pourraient être utiles au gouvernement chinois. Parce que on dit que même si Huawei dit, Mario, qu'ils sont indépendants...
Ils sont une entreprise privée indépendante du gouvernement. C'est dur à croire en Chine.
Oui, c'est dur à croire. Surtout que ultimement le gouvernement pourrait... Même si Huawei dit, nous, on prend aucune information, enfin, ils prennent des informations, veut pas. Mais si le gouvernement dit, ben, vous nous les donnez, les informations, il serait, en gros, forcé de le faire, là. Alors, on a beau avoir des garanties de la compagnie. Ça ne semble pas rassurer les
réseau,
experts.
Si on a le réseau 5G, ça devient le réseau, du ministère de la Défense, de l'armée, de tout ce qui, de tout ce qu'on fait, là, de nos universités, notre savoir, nos recherches.
Oui, c'est vraiment ce qu'on voit pour le futur de la 5G. Reste que, faudra le voir, est-ce que ça s'implantera tel qu'on le voit, mais des chirurgies, tu touches à tous les domaines avec si la 5G s'installe un peu partout, et il y a le passage des données un peu partout, là, qui fait que quand tu recueilles un peu tout ce qu'on fait sur nos téléphones et compagnie, c'est de l'or en barre pour un pays étranger. D'ailleurs, la plupart des experts, j'ai assisté à certaines conférences récemment sur le sujet avec des experts internationaux, et tout le monde est unanime que c'était la chose à faire.
Qu'avaient fait tous nos partenaires, ou à peu près?
Ouais, à peu près. En fait, faut dire, le Canada fait partie de ce qu'on appelle le Five Eyes. Là. C'est un groupement de 5 pays qui s'entraident sur la surveillance et le renseignement. Là, t'as les Américains, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada. Et il ne reste que la Nouvelle-Zélande qui n'a pas fait ce saut-là. Donc, dans ceux qui se travaillent ensemble sur la protection du renseignement, contre-espionnage et tout ça, ben là, écoute,
les trois autres avaient déjà boycotté Huawei, mais entre toi et moi, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est les deux géants du groupe.
Tu as tout à fait raison. Il faut dire que dans ce dossier-là, c'était rendu épineux avec le dossier de l'affaire Meng Wanzhou. Ensuite, y a les deux Michael emprisonnés en Chine. Donc, ça, c'est un sujet, je pense, où on essayait de trouver la meilleure façon de dire non à la Chine sans se retrouver avec trop de problèmes.
Et le meilleur moment.
Est-ce que c'est le bon moment, là?
Ben, je comprends là, que pendant les négociations avec Meng Wanzhou d'un côté, les deux Michael de l'autre côté, c'était de placer le gouvernement canadien dans une position délicate pour annoncer ça. Mais en même temps, en faisant ça, la Chine nous donnait une raison de plus de dire hey, « ils sont-tu pas fiables? » Ils sont pas satisfaits. Nous, on arrête quelqu'un qui est à la demande des Américains, qui a une demande d'extradition. Eux autres, ils ramassent deux Canadiens... Moi, deux Canadiens qui sont en voyage d'affaires, puis...
Offre un procès bidon.
C'est ça que tu veux comme partenaire d'affaires?
Non, ça prouvait effectivement les inquiétudes. Donc voilà, c'est non, fait. Mais est-ce qu'il y aura des conséquences?
Parce que moi, je pense que, je te dis, le moment de l'annonce, je pense que la décision a été prise. Je pense que c'est dans l'entourage de M. Trudeau, dans le gouvernement libéral, il était pas en désaccord avec les conservateurs. Il était d'accord qu'il fallait bannir Huawei. C'était juste comment on va manœuvrer pour annoncer ça. D'ailleurs, je pense qu'on s'attend à des sanctions. Moi, je m'attends à ce que d'ici une semaine, la Chine annonce des représailles.
Est-ce que là, la tension internationale fait que ça enlève un peu le focus sur ça?
C'est vrai. C'est vrai que le focus est parti de là, mais je m'attends quand même à ce que la Chine réplique. La Chine laisse pas passer, là.
À voir dans les prochaines
semaines. On boycotter le canola canadien comme ils l'ont déjà fait ou quelque chose du genre.
On n'ira pas en Chine en vacances, là, non plus, dans les...
Ouais, mais ça, c'est triste, mais c'est de moins en moins ça. Là. Avec les deux Michael, d'après moi, il y a bien des gens qui se sont dit, ouais, la Chine... là.
Dans les experts qui se parlaient en sécurité informatique et en renseignement, là, ils vont pas en Chine. Là.
Non. On m'a dit, non, non, ils vont pas en Chine.
Jamais.
Non. Parce que les gens qui travaillaient avec la Maison-Blanche et tout ça, ils disaient, eux, ils peuvent plus, là. Alors, la Chine, c'était, c'est terminé.
C'est plate.
Depuis
c'est
le dossier des deux, Michael.
Quelqu'un qui aime voyager, c'est un gros morceau de globe. La Russie puis la Chine, c'est un gros morceau de globe à mettre un X, là.
T'as tout à fait raison. Ouais. Mais, dans ce cas-là, on va aller ailleurs. Dossier qui a inquiété plusieurs personnes aujourd'hui, que la présence de possibles cas de variole du singe à Montréal. 17 cas suspects de variole du singe qui sont présentement sous enquête dans le Grand Montréal. Puis on dit, ben en fait, il y en a 15 à Montréal et 2 sur la rive sud et une dans la couronne nord. Et Mario, quand on parle de cas suspects, ce qu'on attend la confirmation, là, on semble pas mal certain que c'est ça.
Oui, parce que le cas américain, qui serait peut-être la source, qui serait venu à Montréal, aurait eu des relations, lui, il est confirmé.
Il est identifié. Et c'est pas une maladie qui a des symptômes quand même assez précis, particuliers. Aujourd'hui, Dr. Mylène Drouin de la Santé publique à Montréal disait toujours en attente la confirmation par laboratoire. Donc, pour l'instant, ce sont toujours des cas suspects. On parle d'hommes âgés entre 30 et 55 ans qui ont eu des rapports homosexuels sur les 17 cas. Donc, je vous le disais, là, 15 qui sont sur l'île de Montréal. Je vais vous faire entendre un extrait de Mylène Drouin sur la contagiosité de cette maladie.
C'est pas très contagieux, donc c'est vraiment, ça prend des contacts étroits, prolongés, par gouttelette, pour arriver là à une transmission.
Bon, alors on est habitué, nous, avec la COVID, à quelque chose d'extrêmement contagieux. On n'est pas dans le même niveau.
Est-ce que j'ai compris, ils veulent pas se faire prendre, puis que dans 2 mois ou dans 6 mois, on s'aperçoit que dans certains cas, ça peut être transmis par aérosol. Mais présentement, les deux seuls cas de transmission, les deux seuls exemples, c'est relations sexuelles où elle a dit des personnes vivant vraiment ensemble dans le même domicile.
Exact.
Mais il n'y a aucun cas de contamination à l'épicerie, là.
Non, on parle vraiment d'échanges de fluides, là. Ce qui est rendu là, si je me passe la fourchette, mais bon. Les personnes d'ailleurs atteintes deviennent contagieuses à peu près 5 jours avant l'apparition des symptômes et le demeurent jusqu'à ce que les lésions se résorbent, là, parce qu'on parle quand même de différents symptômes, de la fièvre, ganglions enflés, et là ensuite, ben, il y a des lésions cutanées qui apparaissent.
Je rappelle les lésions, là, c'est pas le fun. Non. C'est des boutons, vraiment des gros boutons.
D'ailleurs, dans les cas suspects, certains ont été pris en charge par la clinique L'Actuelle à Montréal, fondée par le docteur Jean Thomas, qui est bien connu de la population. Il explique un peu à quel point on se grattait la tête un peu dans des cas comme ça. Une maladie qui, dit-il, personne ne connaissait là, il y a 24-48 heures. Alors, veut quand même émettre une alerte aux médecins à la grandeur de la province d'être vigilant aux différents symptômes. Parce qu'entre autres, dans son cas, au départ, on dit l'homme, un des cas en ce moment qui est étudié, l'individu se prend un mal de gorge, ganglion enflé, s'en va à l'urgence en fin de semaine. On le traite comme un streptocoque. Et ensuite, il y a des lésions cutanées qui apparaissent. Et là, traité à l'actuelle, on a d'abord pensé que c'était la maladie du chancre mou. Je ne sais pas c'était quoi le chancre mou, mais ça a des symptômes au départ similaires. Je vais entendre Dr. Thomas là-dessus.
Nous, ici, on s'est mis à avoir des choses un petit peu étranges. Comme je vous dis, on a pensé que c'est cette maladie-là qu'on voyait quand même à l'occasion, mais quand même assez rarement. Et ça se ressemble un peu. Sauf dans la maladie du chancre mou, c'est plutôt génital seulement. Et dans la maladie de la variole, ben, il y a une atteinte un petit peu plus systémique, plus généralisée.
Bon, et pour ce qui est de la santé publique, on incite les gens qui auraient des symptômes à s'isoler, porter le masque, couvrir les lésions aussi. On parle par contre de formes mineures pour l'instant dans tous les cas. Il y a pas de traitement spécifique pour cette maladie-là, donc on dit aux gens de rester à la maison et d'attendre la fin des symptômes.
La forme sévère de la variole du singe, celle qui, y a des morts là. Celle qui vient du Congo pis tout ça, mais l'autre, c'est le variant ou la variante qu'il y aurait ici, c'est pas, semble pas être mortel, mais c'est, tu sais, moi, ce que j'ai entendu ce matin, ce que ça me dit, c'est que ça concerne pas tout le monde, là. Tu sais, c'est vraiment...
Ben, ça peut éventuellement...
Ça se mettait à se répandre.
Ouais, mais... ça peut se répandre. D'ailleurs, la variole, on l'appelle donc orthopoxvirose simienne ou monkeypox, là, en anglais. C'est un terme que vous allez voir beaucoup, qui est apparu pour la première fois chez l'humain en 1970 en République démocratique du Congo. Donc, on dit, là, contact étroit prolongé avec des sécrétions infectées, des voies respiratoires ou des lésions cutanées, là. Alors, faut que ce soit effectivement très près. Des symptômes dans les 5 premiers jours, le fièvre, fièvre, intense maux de tête, ganglions lymphatiques enflés, douleur au dos, douleur musculaire, grande fatigue. Là, quand vous commencez à avoir des lésions, c'est un peu plus évident. Et des cas qui se multiplient. Hein. On sait, Royaume-Uni, mercredi, là, c'était l'Espagne-Portugal. Dans les dernières heures, Suède et l'Italie qui ont fait part de cas suspects ou confirmés.
Et retenez-vous pas d'aller au Biodôme ou au Zoo de Granby. Singe, ça n'a aucun rapport. Ce que je comprends, c'est qu'au point de départ, dans la recherche, on a trouvé là, ce qu'on appelle des réservoirs de virus chez des singes. Mais même la transmission animale en Afrique, où il y a plus de ce virus-là, c'est même pas les singes, c'est les rongeurs. Des petits rongeurs dans les maisons, puis tout ça. Fait que,
Donc, allez au, donc, c'est juste, au parc safari, là, s'il y a un singe qui saute sur le toit.
Non, il vous donnera pas ça. Il n'y a pas de danger.
Tout savoir en 24 minutes.
La coroner Jeanne Kamel a finalement présenté ses conclusions, les conclusions de son rapport sur le décès d'aîné pendant la première vague en CHSLD. On sait que le rapport a été rendu public plus tôt cette semaine, a été amplement discuté, mais la coroner Kamel a pu donc expliquer ses différentes recommandations, le contexte aussi de cette enquête. Elle explique que c'est un système défaillant là, sur des décennies qui a amené quand même à cette crise-là et qu'il aura fallu cette urgence sanitaire sans précédent pour réunir finalement les acteurs autour d'une même table et débuter cette discussion sur l'avenir de nos aînés. Elle a d'ailleurs, et elle souhaite avec ce rapport-là, lancer un débat à la grandeur de la province sur l'avenir des aînés. Je vous la fais entendre.
Une chose est claire pour l'ensemble de cette enquête. Nos aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle mort de nos gouvernements. Je me permets cette affirmation puisque, selon moi, ils sont aussi dans l'angle mort de la société. À cet égard, je souhaite ardemment que mes travaux participent non seulement à une meilleure protection des personnes âgées ou vulnérables hébergées, mais aussi à un éveil collectif sur la place des aînés dans notre société.
Rappelez que l'enquête s'est penchée sur 53 décès survenus en CHSLD, en RPA aussi, entre la mi-mars et le 1er mai, au début de la crise sanitaire. Dans les recommandations, là, on en a parlé cette semaine, mais revoir le rôle du directeur national de santé publique, on a convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés, maintien à domicile davantage des aînés, assurer de plus grande imputabilité. Alors, plusieurs recommandations que le gouvernement veut suivre, d'ailleurs.
Elle a quand même remis les choses au point, parce qu'il y a des gens qui avaient interprété son rapport que le gouvernement n'était pas blâmé du tout. Le gouvernement n'est pas blâmé spécifiquement. Il a dit, par exemple, sur Aaron, tout le monde a failli. L'administration privée du centre, l'administration publique du CIUS qui en avait la charge, le gouvernement a dit tout le monde. Donc, c'est pas... Le gouvernement n'a pas été blâmé spécifiquement. Puis l'interprétation, elle a dit que, selon elle, la ministre Blais lui avait donné un témoignage crédible en disant, regardez, là, la vérité, c'est qu'on ne l'avait pas préparé, CHSLD, puis enquêtait pas, puis cherchait pas un papier là, avant le 9 mars qui va vous laisser croire qu'on avait les CHSLD, on n'avait pas vu ce qui s'en venait. Donc, mais témoignage crédible livré en 2022, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des manquements en 2020 au moment où les événements sont survenus. Là. Donc, il n'y a pas... C'est pas une excuse du gouvernement, c'est un blâme à l'ensemble des intervenants, incluant le gouvernement qui était là en place puis qui l'a échappé comme les autres.
C'est qu'elle a rencontré fait plus de 200 témoins en près de 70 jours, disant d'ailleurs qu'on a eu une rupture du contrat moral et sociétal en laissant mourir des dizaines de patients dans des conditions épouvantables. Alors ça rappelle des mauvais souvenirs, c'est quand même un drame qui passera à l'histoire au Québec. Un adolescent a perdu la vie dans un triste accident de scooter à Drummondville. Et ça ébranle d'ailleurs la communauté. Lui qui a été éjecté de son scooter lors d'une collision avec une camionnette. C'est survenu peu après 21h à l'intersection de la rue Robert-Bernard et le boulevard René-Lévesque. On parle d'un jeune de 15 ans seulement, Jasmin Béliveau, transporté d'urgence au centre hospitalier dans un état critique. Il est finalement décédé à l'hôpital. La Sûreté du Québec fait enquête. On dit qu'un des deux conducteurs aurait passé sur le feu rouge. On ne sait pas encore exactement lequel. On récolte les versions de témoins. Aujourd'hui, plusieurs des proches se sont recueillis à l'endroit du drame, décrivant un jeune homme souriant, joyeux dans la vie. On peut écouter un extrait de certains de ses proches qui étaient là aujourd'hui.
Un petit gars, je suis souriant. On s'attendait comme pas à ça. Là. C'est difficile ce matin. Là. On se rend compte que la vie va vite. Puis
faisait partie de son quotidien, surtout à l'en-scout. Puis ça a tout le temps été un gars bien prudent.
Il était tout le temps souriant, il était tout le temps là pour tout le monde, admettons. Puis t'avais besoin de quelque chose, il pouvait te le prêter sans stress. Il était tout le temps là pour faire sourire tout le monde aussi. C'était un gars qui était joyeux dans la vie.
T'sais. Jasmin, honnêtement, c'est un gars que quand t'avais de la misère, il était là pour t'aider.
Mais c'est ce qui est, c'est toujours ce que je trouve terrible avec bon vélo, scooter, c'est que l'erreur est humaine. T'es passé sur une rouge distraitement, ça peut arriver à n'importe qui. Tu veux pas que ça t'arrive, mais je pense pas que quelqu'un de 80 ans qui a conduit depuis l'âge de 20 ans va dire « j'ai jamais passé sur une rouge, ça existe pas ».
Non, effectivement.
Tout le monde a mené de distrait, le soleil, n'importe quoi, quelque chose qui arrive, elle regarde, arrive quelque chose à gauche, à droite, t'es distrait. C'est juste que si, mettons, que tu fais ça avec deux autos, bang! Ah, c'est pas drôle. Là. Puis, okay, le monde a mal dans le dos le lendemain, mal dans le cou un peu, constat à l'amiable, chez le réparateur, les autos, à ce temps, ça coûte cher, 4 000 $ de réparation, mais c'est pas de mort. Là. Tout est réparable, la tôle est réparable, le mal de cou va passer. C'est ce que quand t'es dans un véhicule, t'as aucune protection, là, tu sais, scooter, moto, vélo encore pire, ben là, c'est une petite erreur bien niaiseuse, mais... Il y a un mort.
Ouais, une conséquence immense. D'ailleurs, du soutien psychologique a été offert aux jeunes qui le désirent là, dans les écoles secondaires à Drummondville. Parlons du dossier ukrainien maintenant. Des bombardements se sont poursuivis aujourd'hui dans l'est du pays, entre autres dans le secteur de la ville de Severodonetsk, qui a été bombardée, là, on dit, pendant des heures. Plusieurs personnes ont perdu la vie, plus des dizaines de blessés également. On parle d'une ville presque complètement encerclée par les forces russes qui, selon les Ukrainiens sur place, disent qu'ils bombardent là de manière aléatoire, là, un peu comme ce qu'on a vu dans les dernières semaines, des bombardements qui touchent beaucoup d'immeubles d'habitation, donc qui n'ont aucune précision, le bilan qui pourrait donc s'alourdir. D'ailleurs, à Azovstal, cette aciérie, on parle chez les Russes qu'au moins 1730 militaires ukrainiens se seraient déjà rendus là, dans les derniers jours. On disait au départ qu'il y avait à peu près 2000 soldats, donc il en resterait très peu à l'intérieur de ce complexe. Donc le ministère a diffusé une vidéo montrant des militaires qui sortaient de ce site et qui se faisaient contrôler par des soldats russes avant d'entrer dans des autobus. Il resterait, selon les Ukrainiens, là, des combattants de haut rang qui seraient encore à l'intérieur. Alors, il demeure encore quelques personnes. Et le comité international de la Croix-Rouge qui enregistre, surveille le nom des prisonniers pour tenter de surveiller là ce qui leur sera fait parce qu'ils doivent respecter le droit humanitaire international pour les prisonniers de guerre. Et ça, on doute que ce soit respecté. Parlant de crimes de guerre, la prison à vie a été demandée dans le dossier de ce jeune militaire russe accusé au premier procès pour crimes de guerre en Ukraine, un jeune de 21 ans, Vadim Chichimarin, qui le 28 février a abattu un homme de 62 ans d'un coup de Kalachnikov, un homme désarmé, un civil. On réclame donc la peine maximale, lui qui a reconnu les faits. Et dans les dernières heures, Mario, un moment quand même assez touchant, c'est que la veuve de la victime, Katerina Chelipova, est allé confronter le jeune homme disant « Avez-vous des remords pour le crime que vous avez commis? » Il a répondu « Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais je vous demande quand même pardon. » Et elle lui a dit « Pourquoi vous êtes venu ici? Pour nous libérer de quoi? Qu'est-ce que mon mari vous avait fait? » Éclatant en sanglots. Les moments aussi touchants, c'est qu'elle dit quand même qu'elle est ouverte à un échange. Je dis, on pourrait échanger ce jeune homme-là contre un des gars d'Azovstal. On sait qu'à quel point ils sont devenus un peu mythiques, ces soldats qui ont résisté pendant des semaines.
À partir du moment où tu l'as jugé pour crime de guerre, tu lui donnes la prison à vie, tu peux pas l'échanger.
Effectivement.
Là.
Mais je trouve ça quand même...
Non, je comprends quand même fort, l'émotion.
Hein. Dire, je serais prêt à le faire. Mais oui, c'est un procès qui fera jurisprudence parce qu'il y en aura beaucoup
mais
d'autres.
C'est ça. Là.
Assurément. L'ONU, d'ailleurs, dans ce dossier qui réclame le retour des pourparlers de paix. On se souvient, là, en Turquie, on avait réussi à amener les deux parties à discuter. Malheureusement, on était tombé dans un impasse. Et là, on réclame que... En fait, ce qu'on dit, Mario, c'est que les récentes ententes, par exemple, pour faire sortir des soldats d'Azovstal, ben, tu sais, ça a marché, là, un peu. Là. On a réussi à se parler pour arriver à une sortie et que ça, on peut peut-être bâtir là-dessus. On sait que les ports ukrainiens sont sous blocus russe, donc on peut pas sortir entre autres l'engrais, la nourriture, et les Russes, eux, font face à des sanctions internationales. Alors ça fait flamber le prix de la nourriture. On aimerait bien qu'on puisse au moins s'entendre sur certains points là-dessus pour débloquer les ports. De retour chez nous, le gouvernement, le ministère de la Santé de Christian Dubé annonce la création de cliniques pour la COVID longue. Fait COVID longue et maladie de Lyme, deux maladies qu'on comprend encore peu, dont le service, faut croire, est défaillant dans le réseau actuellement.
Ben, des maladies pour lesquelles les gens qui les ont savent pas quel sein se vouer, savent pas à quelle porte cogner, savent pas trouver quelqu'un pour avoir un diagnostic clair, des commencements de solutions.
Et là, on veut donc créer des endroits spécialisés, 5 centres de référence, 10 cliniques satellites au Québec qui pourront être accessibles à la population pendant au moins 3 ans. C'est le CHUM qui va coordonner ce projet. Non seulement on va s'occuper des patients, mais on s'occupera de recherche aussi pour tenter d'offrir des soins aux patients. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la COVID longue, ne souffrent de fatigue chronique, différents problèmes pulmonaires, c'est assez varié. 23 000 personnes pourraient bénéficier des services offert par ces cliniques selon le gouvernement.
C'est très bien.
Parlons des Nordiques. Mario, rencontre aujourd'hui qui s'est déroulée à New York entre Éric Girard, ministre des Finances, et Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey. Faut dire, il s'est pas déplacé à New York juste pour ça. Éric Girard avait des rencontres d'investisseurs des banques américaines.
Depuis 60 ans, le Québec... C'est M. Parizeau qui avait initié ça comme jeune fonctionnaire, là. Le Québec voulait emprunter pour des grands projets, nationalisation d'électricité, puis quelqu'un disait, est-ce qu'on va prendre l'argent? Puis lui, il avait étudié en Angleterre de l'argent. Est-ce qu'on va prendre de l'argent? On s'en allait à Wall Street, on va aller à New York, on va présenter, on a des bons projets, on va faire de l'électricité.
On va aller là où est l'argent.
Ouais, on va aller là où est l'argent. Puis depuis ce temps-là, je dis, ben là, c'est plus une question dans le marché d'aujourd'hui, mais le ministre des Finances doit aller deux fois par année à New York.
Et on se souvient qu'il y avait eu rencontre virtuelle avec les grands patrons de la Ligue nationale de hockey le 13 janvier. Et là, on fait une visite, on dit de courtoisie, là. Donc, aller parler de certains points par rapport au Nordique. Est-ce que ça va faire avancer le dossier, Mario? Il faut dire qu'il y a beaucoup de scepticisme, là.
Mais c'est parce que
monsieur, madame, tout le monde.
Si quelqu'un attend de dire qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre-là, je veux dire, la réponse, c'est rien. Si tu me demandes est-ce que la rencontre est utile, je vais te répondre oui. Elle n'est pas utile en pensant avoir un résultat à soir ou cette semaine. Elle est utile dans le sens que nous, le Québec, là, on a un amphithéâtre de calibre Ligue nationale. Il n'y a pas d'équipe dedans. Puis d'aller dire à Bettman et à son équipe, regardez, là, nous, on a ça. Puis ici, au Québec, si jamais vous avez une équipe qui est à vendre, si jamais vous avez une équipe qui tombe en faillite, qui veut... C'est vrai, il va peut-être avoir une récession l'année prochaine aux États-Unis. Peut-être 2-3 équipes vont manger leur bon. On sait jamais de quoi l'avenir est fait. De dire, ben regarde, nous autres ici, là, c'est pas un gouvernement qui va dire, ah, le sport professionnel, on haït ça. C'est un gouvernement qui est prêt à parler business, qui est ouvert. Ben, moi, je trouve que c'est tout à fait correct. C'est-à-dire que... Tu sais, je veux dire, des agents immobiliers qui font le tour d'un quartier pour donner un calendrier en disant, regardez, si jamais...
oui.
Non, mais si jamais le monde de leur maison...
Il tombe, là, là-dessus.
C'est ça. Si jamais leur maison, ils veulent la mettre à vendre, ils vont penser à moi, mais ça marche, là. T'sais, ils le font parce que ça marche. À un moment donné, ben oui, leur maison est à vendre, ils pensent à... Mais là, c'est un peu comme de dire, c'est une drôle d'image, mais si quelque chose arrive, là, le Québec, on est une option, on est là, on est ouvert.
Pour mais il n'y a pas un bout où à un moment donné, à vouloir, tu deviens un peu la tâche, là?
Bon, je pense pas qu'il faut qu'on devienne, mais je pense pas, je veux dire, ministre des Finances.
Ça fait quand même 10 ans, là, qu'on gosse Gary Bettman là-dessus, là. Puis qu'il nous répond toujours avec un peu de mépris.
Puis là, il y a une équipe en Arizona présentement, qui va jouer dans un aréna communautaire, puis que l'équipe a même pas le droit d'utiliser les chambres des joueurs. Faut qu'ils se...
Il y aura pas le logo.
Ils peuvent pas mettre le logo des Coyotes de Phoenix. Il y a une équipe de la Ligue nationale qui va jouer sur l'aréna d'une équipe universitaire, puis il aura pas le droit de mettre même son logo sur la glace.
Ouais. Donc, on pourrait lui parler avec le même mépris. Ouais, rendu là.
On pourrait dire, t'es rendu là, Bettman, là, pour essayer de couvrir tes gaffes.
Tu es en deuil, Mario, d'un compositeur que tu appréciais.
Oui.
Vangelis est décédé à l'âge de 79 ans. Faut peut-être le replacer pour certains. Vangelis qui a fait beaucoup de musique, de films, entre autres. Chariots of Fire, 1982, peut-être un des meilleurs exemples. Hein?
Ah, là, tout le monde leur place.
Oui. Comme disait notre collègue Achille, on veut tous courir au ralenti sur cette,
oui.
sur cette musique-là. Donc, il faut dire pionnier de la musique électronique, entre autres des synthétiseurs, figure majeure de musique de film. Là, je vous disais, il y a celui-là, mais travaillé sur Blade Runner, a eu un Oscar pour cette trame sonore que vous entendez en ce moment. Nomination Golden Globes, travaillé avec Oliver Stone aussi, Roman Polanski. Il est décédé de la COVID à l'âge de 79 ans, lui qui, de son nom complet, Vangelis Odysseas Papathanassiou. Pugh.
Ça, je ne le savais pas.
Bon, tu vois, au génie en herbe, tu ne l'aurais pas eu.
Non.
Il a été salué par le premier ministre grec aujourd'hui, qui lui a rendu hommage. On parle vraiment d'un trésor national pour les Grecs. Et celui-là, parce qu'il a fait aussi une collaboration.
Mais moi, c'est cette époque-là. Ben, évidemment, je connais Chariots of Fire, mais cette époque-là, les collaborations avec le chanteur de Yes, donc, avec John Anderson.
The Friends of Mr. Cairo.
Ouais.
Pas en écouter un extrait? Ça, on est dans un 11 minutes très progressif.
Oui, c'était des belles années. Ouais,
alors, il est décédé dans la nuit de mardi.
Très belle mélodie. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.